Permettez-moi de commencer par une citation. Oui, c'est toujours séant de citer, ça assoit sur le séant, justement. Mais, et croyez-le bien, sans prétention aucune, je me fais fort de vous réévolutionner la citation, histoire de bien terminer cette série de plateaux en public à l'occasion d'Evento, Biennale internationale d'art urbain, à Bordeaux. Oui, le must de la citation, c'est le mot d'auteur. C'est ça l'idée, en fait. C'est que les conneries des gens célèbres ont toujours beaucoup plus d'impact que les choses intelligentes exprimées par des inconnus. Donc, il faut choisir son auteur avec discernement. Mais là, attention à la gaffe. Citer du Guy Debord au cours d'une réunion de copropriété expose à des déconvenus. De même qu'un roboratif Audiard peut vous desservir dans un vernissage ou un séminaire sur la réurbanité dystopique dans l'œuvre de Josette Dubuc. Un seul auteur par citation, c'est aujourd'hui prendre un risque. Ses limites. Il est plus rentable et plus sûr d'en compter plusieurs. Plier, déplier, multiplier, suivons la tendance à la lettre, multiplions. Et comme après tout, la citation s'en fiche, c'est l'auteur qui compte, pas la peine de prendre toute la phrase, un bout suffit. Et si on les multiplie et qu'on les met bout à bout, les bouts, on met du collectif dans les cités. C'est la multicitation révolutionnaire. Alors concrètement, c'est simple, hein, vous prenez un dictionnaire de citations en ligne dont je ne citerai pas le nom, et puis vous tapez un mot-clé, important le mot-clé. Tiens, prenons participation au hasard. Alors ça peut donner ça, par exemple. Sans la participation de l'odorat, Antelme Bria-Savarin, l'autre s'abuse en ne croyant pas, Arthur Schopenhauer, à son comble, Paul Jean Toulet. Mais ce n'est pas une chose à laquelle vous participez, Naomi Klein, en y participant un peu, Antonio Baldini. L'homme ne pourra plus accepter de travailler, François Mitterrand, en baiser, André-Pierre de Mandiargues. Parce que écrire, c'est faire un travail, Michel Lèbre, cultivé et très politique, Ségolène Royal. On pardonne les crimes individuels, Marcel Proust, dont on ne guérit que par la participation politique, Georges Navel. La télévision publique a une spécificité irréductible, Marc Tessier, aux catastrophes, Michel Audiard. Une hallucination consensuelle vécue chaque jour, William Gibson. J'ai envie de suggérer une hypothèse selon laquelle, Pierre Desproges, le besoin de participation vient du sublime étonnement, Arthur Koestler. Voilà, 16 citations en 5 phrases, on doit même pouvoir faire beaucoup mieux. Évidemment, ça ne veut rien dire, mais on s'en fout un peu. C'est la dernière. On est un peu fatigué. On a beaucoup réfléchi. On a pensé. On a pensé que. On a beaucoup réfléchi. On a pensé.
Quels enjeux géographiques Evento renvoie-t-il ?
Plan sur l'eau fonctionne en circuit fermé avec le fleuve.
plus tu t'approches des zones. C'est des zones de non-droit à Bordeaux, quoi, tu vois. C'est, oui, parce qu'on dit que les zones de non-droit, c'est soi-disant les cités populaires. Non, les zones de non-droit, c'est les endroits où habitent les riches, quoi. Hein, où les pauvres ont de moins en moins le droit d'aller, d'ailleurs. Mais tu vois, c'est Jaurès, je crois, qui disait les traditions, c'est pas entretenir les cendres, c'est souffler sous les braises. Et je crois qu'à Bègle, on souffle sur les braises.
Une image peut-être qui se déliterait dans un néo-modernisme.
Gros marche, c'est super.
Voilà, ça m'évoque.
Voilà, je vous invite, si vous voulez bien, à terminer vos sandwichs, vos frites,
merci.
Et à venir me rejoindre ici, ceux qui participent au débat, et à vous installer autour de moi,
merci,
de manière à ce qu'on puisse commencer relativement vite. On devrait commencer à enregistrer cette émission.
C'est vraiment sympa, toi, d'avoir pris en stage.
Merci de venir me rejoindre.
Avec plaisir.
Voilà, mon séjour sur Bordeaux s'achève. Et je vous cache pas que je vais laisser bien volontiers la belle endormie pour retrouver Marseille. C'est en fait en dehors des Vintos que les choses les plus intéressantes se sont passées. Pour moi en tout cas. Et c'est encore en dehors des Vintos que j'ai trouvé les choses les plus pertinentes. Là où la lumière ne s'est pas dirigée, là où la parole n'a pas forcément été donnée, mais là où elle s'est prise, là où elle s'est emparée de la problématique et des questions, c'est là que j'ai aimé errer. C'est là que j'ai fait de belles rencontres.
Il y a beaucoup de gens qui font semblant de l'être, mais il y a très peu de riches en définitive. C'est une vraie minorité qui nous casse les couilles, quoi, en définitive. Quoi. Hein? La grande majorité des gens subissent plus qu'ils ne profitent du système. Quoi.
Ouais, mais la ville, elle est développée aussi pour faire des quartiers vitrines, quoi. Ouais. Effectivement, voilà. Mais t'as des mecs.
Donner le change.
T'as les Chartrons, tu as après l'hypercentre-ville, le quartier hôtel de ville, le grand théâtre, le cours du Chapeau Rouge, tout ça. Le marché des grands hommes, est-ce que t'as vu le marché des grands hommes? Vas-y, faire un tour. Mais t'as un truc vraiment super luxe qui a été fait par les deniers publics. Hein. Les marchés, c'est compétence municipale. Mais c'est, vas-y, je te promets, vas-y, tu vas voir quelque chose, quoi. Mais c'est vraiment une vitrine. Alors t'as Gucci, t'as tous les Vuitton et les machins, tu vois, tout est là, tu as des trucs, mais c'est un autre monde, quoi. C'est l'hyper centre-ville, nickel, quoi. Nickel, on y met un pognon. Alors t'as un gros bateau qui a débarqué, là, tu sais, genre la croisière s'amuse, là. Les mecs ils s'arrêtent sur les quais et puis tout ça, boum, par en serré, ça s'en va là.
Ça et le Médoc.
Voilà.
Les châteaux du Médoc et de Saint-Émilion.
Salut à vous et bonne continuation, Christophe.
On écoutait Salut, une création sonore de Christophe Modica. Et du son et de la musique, il y en aura beaucoup au cours de cette émission, puisqu'on accueille Soundress, un programme de résidence pluridisciplinaire, de recherche et d'expérimentation. Notre plateau aujourd'hui est installé à la cité Le Grand Parc, où nous étions d'ailleurs jeudi dernier. Alors, flashback sur un magnifique ciné-concert proposé par Soundress.
Ce soir, un ciné-concert. En fait, c'est une idée qui s'est vraiment développée en résidence. Le concert de ce soir est né, c'est fait de la collaboration et de la connaissance de tous ces musiciens qui se sont parfois rencontrés pour la première fois ici à Bordeaux. Et la pièce s'est faite, s'est construite ces jours-là, à côté de toutes les autres choses qu'on a programmées comme Sandresse. Le film que vous allez voir ce soir, c'est The Adventures of Prince Ahmed. C'est un film allemand de 1926 qui a été dirigé et écrit de Lotte Reininger.
Extrait des aventures du prince Ahmed, ciné-concert proposé par Sandresse à la cité Le Grand Parc, c'était jeudi dernier. Alexandra Pomarico, bonjour.
Bonjour.
Tu partages avec Luigi Negro la direction artistique de Sandresse. Alors pour Evento, vous proposiez de nombreux rendez-vous, des concerts, des événements, des workshops, en compagnie d'artistes comme Iva Bitova, Bang on the Can All Stars, David Shepard, Phil Klein, Madan Gopal Singh, Yard Char, David Aix, 456, Steve Piccolo. Peut-être sur le choix de ces musiciens qui composaient ce programme très, très nourri, très fourni, et sur les œuvres présentées, quel fil rouge tu as choisi pour composer cet ensemble ?
Oui, la direction musicale étant du batteur de Bang on the Can et directeur musical de Sandresse, David Cossin. Tout au cours de nos visites de repères ici à Bordeaux, quand on nous a proposé de collaborer avec ces projets et de proposer un parcours sonore et musical, on s'est beaucoup demandé qu'est-ce que la ville était en tant que sonorité et recherche musicale. Qu'est-ce que s'était passé ici d'important? On connaît le festival Sigma et tout ce qui a laissé comme trace ce travail. On a rencontré beaucoup de musiciens, on a reçu beaucoup de propositions, on a rencontré bien sûr les conservatoires. Et voilà, par rapport à ce qu'on a perçu, et on a essayé de proposer une programmation musicale qui pouvait amener quelque chose que peut-être, on ne juge pas, on n'est pas tellement sûr, mais que peut-être était neuf pour Bordeaux. Et donc voilà, on a choisi ces musiciens pour que, surtout parce que bon, leur niveau de recherche musicale est très très haute, la qualité de leur proposition est très très haute, et aussi parce que on connaît très bien tous les musiciens qu'on a invités, et on était sûr qu'ils auraient bien compris notre proposition de Sangresse, qui n'était pas seulement de faire et de programmer des concerts, mais aussi d'activer, de participer et de créer de nouvelles pièces ici en place, même si on a fait un programme très très dense, comme tu l'as dit. Mais on a invité des gens dont on pouvait leur faire confiance, et on savait qu'ils allaient prendre notre invitation et la partager et se donner avec beaucoup de générosité entre eux pour tout ce qui ces rencontres musicales ont donné en termes de nouvelles créations qui se sont faites sur place avec les musiciens qu'on a rencontrés ici, avec les étudiants et avec tous les gens qui ont travaillé avec nous pour construire ce projet qui n'est pas simplement un projet de programmation musicale, je trouve.
Dans cet ensemble, plusieurs influences qu'on remarque, la musique minimale américaine, notamment Bang on a Can All Stars, avec leur répertoire, et puis aussi une attention aux musiques du monde.
Oui, c'est ça. Ça aussi, c'était un peu après les conversations avec beaucoup de musiciens, on a compris que la musique américaine, elle a été reçue ici, mais peut-être que dans ces moments classiques et que toute la recherche qui est venue après le minimalisme américain, Steve Reich, Phil Glass, Terry Riley, et il y a en ce moment aux États-Unis des propositions merveilleuses qui viennent de là, mais qui se sont aussi mélangées avec la tradition du jazz, du rock, des musiques du monde, ce qu'on appelle la new music, la musique nouvelle des États-Unis, je trouve en ce moment est très très intéressant parce que les genres se mélangent, il y a une liberté absolue de citer et de apporter en avant et de faire de nouvelles propositions. Donc on avait un peu envie d'apporter ce genre d'esprit ici, avec des musiciens qui dépassent les limites parfois et qui s'interrogent beaucoup et qui font de l'expérimentation, tout en revenant sur les bases de leur recherche, sur la tradition dont ils naissent. Je trouve que la tradition américaine est très libre par rapport à ça, peut-être parce qu'ils n'ont pas de tradition.
Sur les lieux que vous avez choisi d'investir, d'abord un premier lieu, celui où nous sommes actuellement, la Cité du Grand Parc, et puis ensuite peut-être un autre lieu qui est particulièrement signifiant et notamment du point de vue sonore, c'est la base sous-marine. Sur les lieux que vous avez choisis pour intervenir.
Oui, là aussi c'était un peu le fruit des conversations avec nos partenaires de la direction artistique, aussi de la production, parce que c'est un projet qu'on a fait avec eux, et pas tout seul, il y avait cette envie d'être un peu partout dans la ville et d'essayer de toucher à plusieurs endroits. Et c'est pour ça aussi qu'on a programmé des parades et des processions sonores, parce que c'était vraiment une manière de traverser la ville avec des voix multiples et des musiques multiples. Et comme tu dis, Grand Parc, on savait qu'il y avait eu un très grand travail de recherche sur Grand Parc, sur lequel on voulait relancer avec notre moyen, qui est celui de la musique du son. Et donc, voilà, à travers les concerts, donc on a entendu un extrait de ce que va se passer aujourd'hui avec un happening dans les appartements de musiciens qui vont rentrer dans les maisons des habitants du Grand Parc. D'ailleurs, ça, c'est une idée qui est venue parce qu'on savait qu'ici, il y avait une association qui travaillait dans cette direction-là. Donc, je ne me souviens pas, mais c'est le centre social de Grand Parc que nous avait dit qu'il y avait Stéphane, je crois, oui, qui connaissait l'association. Et donc, on avait eu envie de prendre cette idée, d'amener les musiques dans le salon des habitants et un peu de l'exploder, d'inviter beaucoup de musiciens. On avait aussi envie de faire, au-delà des concerts, au-delà des installations et des performances avec les musiciens professionnels, on dirait, on avait envie de créer des dispositifs où des musiciens de la ville, et même des non-professionnels et des non-musiciens pouvaient intervenir. Et donc, voilà.
Des ateliers, une extension de cette programmation musicale. Alors, des ateliers qui ont eu lieu, j'imagine, ici, à la Cité Le Grand Parc, aussi au conservatoire, des ateliers ouverts aux musiciens confirmés ou y compris aux musiciens amateurs.
Les ateliers étaient ouverts à tout le monde, au public plus général qui pouvait être intéressé ou sollicité par la recherche de tous les musiciens. Évidemment, on a choisi le conservatoire parce que c'est là que la formation musicale se passe. Et donc, oui, chaque jour, il y a eu un ou deux ateliers et workshops avec tous les musiciens qui nous ont invités de l'extérieur, tous les musiciens internationaux qu'on a eu ici. Aussi, au centre d'animation, il y en a eu des différents. Enfin, pendant le week-end, on a travaillé dans d'autres lieux de la ville. Comme tu disais, la base sous-marine qui a été transformée par David Shepard dans un énorme instrument musical a aussi eu de workshops qui étaient censés expliquer le travail de David Shepard et aussi inviter à l'improvisation sur son travail.
Là, pour le coup, il s'agissait de transformer cette base avec des murs de plusieurs, de 10 mètres d'épaisseur en béton en véritable instrument de musique, de faire résonner ce bâtiment avec la musique de Shepard.
Voilà, David a travaillé avec les qualités physiques, architecturales, a joué sur les résonances, sur les possibilités sonores qu'il y avait dans cet endroit immense. Et grâce à Meyer qui nous a offert les hautes parleurs, il a pu monter sa pièce. Qui utilise 53 haute-parleurs éparpillés dans le lieu. Et David a composé une pièce qui dure une heure. Et sur cette pièce, pendant trois fois, on a aussi invité les performeurs de Sandres à interagir avec sa pièce et avec ses dessins sonores qu'il a créés. Et du coup, en fait, on a eu trois autres concerts sur les six qu'on avait programmés.
Alors, Alessandra, on a pris contact il y a quelques jours, un peu en amont de ce plateau, et on avait très envie de construire cette émission ensemble. Et tu nous as proposé, au cours de cette émission, plusieurs interventions en live. Première d'entre elles, quasiment en live, puisque Steve Piccolo est venu il y a quelques minutes nous apporter des éléments. Entre-temps, il s'est dématérialisé. Peut-être qu'il va revenir tout à l'heure pour échanger quelques mots. Mais en tout cas, quelques mots pour introduire en tout cas ce qu'il nous donne à entendre. Ça s'appelle Panic Box. On rappelle juste en deux mots que Steve Piccolo est né aux États-Unis, qu'il vit en Italie actuellement, qu'il est bassiste, compositeur, et qu'il est notamment le fondateur d'un groupe mythique, Lounge Lizards, avec John et Evan Lurie, Arto Lindsay et Anton Fier. Alors peut-être sur ce qu'il est venu travailler sur Panic Box, ce projet qu'il est venu travailler à Bordeaux.
Oui, Steve, depuis beaucoup d'années, il fait aussi un travail de recherche sonore. Il est un artiste sonore. Et avec Panic Box, il a voulu un peu. Il nous a proposé de faire une cartographie sonore émotionnelle de Grand Parc. Que ensuite il est aussi parti grâce au boombox et diffusé dans d'autres endroits de la ville de Bordeaux. Et il voulait jouer sur le non-verbal, comme on se dit toujours beaucoup de mots et parfois pas forcément ceux qui sont les plus intéressants. Donc il avait envie de faire exprimer les gens ou d'inviter les gens à s'exprimer avec un son. Et donc voilà, il a monté une panic box où les gens pouvaient trouver au centre d'un endroit très public, un espace très privé pour exprimer n'importe quel sentiment.
Steve Piccolo, Panic Box.
Ha 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 baby.
Panic Box de Steve Piccolo, qu'on accueillera peut-être tout à l'heure sur ce plateau s'il réapparaît pour échanger deux, trois mots. En tout cas, un plaisir de découvrir ce travail sur le langage non-verbal. Il est l'heure maintenant, mon cher Jérémy, d'accueillir la chronique du Crésat.
Eh bien, bonjour Xavier, bonjour à tous. Voici plusieurs jours maintenant que vous me laissez vous abreuver de théories jusqu'à plus soif, plusieurs jours que je cherche sans relâche la résolution de l'équation du vivre ensemble, que je cours après d'hypothétiques modèles de planification de l'implanifiable. J'étais tellement sûr de la pertinence de ma quête, de l'évidence du chemin à suivre à tirer les fils d'un rationalisme à l'épreuve des bombes, jetant des ponts inédits entre les disciplines, levant des armées de théories que j'investissais du pouvoir de nous tirer du marasme d'une sérendipité omniprésente et fangeuse. J'en étais là, sans douter ni hésiter, imperturbable autant qu'inarrêtable, quand c'est arrivé. Je rentrais chez moi harassé après une éprouvante journée faite de frustration et de bras de fer permanents. Je me rendis compte que, perdu dans mes réflexions, j'avais oublié mon trousseau de clés à la maison, au bureau. Ça ne m'arrive jamais. Je pestais pendant quelques minutes contre mon étourderie avant de me résoudre à aller attendre ma compagne dans un café. Je me consolais en y voyant d'ailleurs l'occasion de finir un slideshow et de répondre à quelques mails. À cette heure tardive, seul le bar tabac du bout de la rue était ouvert. Un café de quartier, un triste PMU dans lequel je m'étais bien gardé de mettre les pieds jusqu'ici. Mais les circonstances exceptionnelles me poussèrent à m'y installer en commandant un verre. J'ouvrais mon laptop, rien ne se passa. La batterie était vide. Le destin s'acharnait contre moi. Désœuvré et presque ironique devant cette exemplaire illustration de la loi de Murphy, vous savez, celle qui dit que la tartine tombe toujours du côté de la confiture. Je ravalai mon irritation et posai mon regard fatigué sur la salle. Il y avait là tous les archétypes mous d'une middle class périurbaine, dans des scènes de vie affligeantes de banalité, inondées par la lumière blafarde d'un néon fatigué. À ma gauche, une famille probablement recomposée avec deux enfants criards. À ma droite, au comptoir, le triste étalage d'un éthylisme de dérive. Et au fond de la salle, deux homo sapiens se livrant à de bruyantes et grossières parades amoureuses. Et puis, Marie-Agnès n'arrivant toujours pas, mon regard changea. Des détails que j'avais d'abord occultés m'apparurent progressivement. Je vis, par exemple, la joie que les enfants ressentaient de sortir au restaurant avec leurs parents. J'entendis les joutes verbales pleines de malice de ses amis qui trinquaient ensemble au comptoir. Et au fond de la salle, il émanait des deux amoureux l'impression d'une danse harmonieuse. À ce moment, je ressentis comme un malaise, ma tête tournait, j'avais des fourmis dans les jambes et un voile devant les yeux. Je repoussais mes 7 verres vides pour reposer ma tête un instant sur la table, quand je la vis. Une souris, blanche comme neige, minuscule, qui me regardait fixement. Intrigué, je lui rendis son regard et faillis m'étouffer quand elle se mit à me parler.
« Tu n'as pas suivi la voie. L'essentiel t'échappe. Tu dois te recentrer et voir le monde tel qu'il est. N'oublie jamais Paul Ricoeur. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'action. Le présent du futur, c'est l'attente. »
Je m'évanouis sur ces dernières paroles. Aujourd'hui, Xavier, c'est un homme neuf que tu retrouves. J'ai laissé filer les idées, je m'y suis perdu, je m'y suis retrouvé, j'en suis mort et j'en renais. J'ai mis à bas toutes mes théories dans un inachevé qui ne me dérange même plus. Je reparcours ma vie et tous mes repères d'hier m'apparaissent aujourd'hui comme les lanternes mourantes d'un monde qui se décompose. Alors ce matin, avant d'arriver, j'ai tout brûlé. J'ai démissionné du CRESAT, j'ai cédé ma place dans le comité de direction de l'université Stostérone. J'ai brûlé toutes mes notes, brûlé tous mes écrits, brûlé tous mes diplômes. Je réfléchis sérieusement à ma réorientation. La numérologie astrale, l'alchimie angélique et la dianétique heuristique me semblent aujourd'hui les voies avec lesquelles mon affinité est la plus grande. Le cosmos est immense et j'y suis bien ancré. Ici, tout est rouge, rien n'est jaune. Il est de ma responsabilité de porter cette parole d'amour et de respect universel. Et je pourrais même peut-être en tirer quelques bénéfices. L'au-delà, c'est loin, mais l'ici, c'est maintenant. À bientôt, Xavier. Je te donnerai des nouvelles de là-bas. Allez en paix.
Jérémy Garniaud, géographe, qui avec Thierry Lafolie nous a vraiment beaucoup régalé tout au long de ces 10 jours avec leur chronique. Désolé d'apprendre la fin du CRESAT, mais j'espère que d'autres aventures nous seront proposées par l'université Stostérone. Alessandra, si tu veux bien, on va maintenant accueillir une proposition musicale, celle d'un double solo, en fait, Gurmit et puis Pritam. Je te laisse le soin peut-être d'introduire ces deux musiciens.
Oui, Pritam Ghosal qui va jouer pour nous les sarodes et Gurmit Singh qui va jouer les dolls. Ils font partie du groupe indien qui vient de New Delhi, Yarchar, avec Madame Gopal Singh et Deepak Castellino. Et ils jouent normalement la tradition soufi présente dans la musique indienne.
Un double solo. À vous. Gurmit à la percussion, Dole et Pritam au sarod, double solo pour cette première performance, mais on les retrouve dans un instant pour un duo. Le temps de retrouver un autre projet qui se développe, lui, depuis plusieurs mois, ici, sur cette cité du Grand Parc, en fait un double projet. Le premier s'intitule Rue Balizarte, et on va en parler tout de suite avec Bertille. Bonjour Bertille.
Bonjour.
Alors, Rue Balizarte, une mise en relation des habitants de cette cité ?
Exactement. Donc, bon, il y a moi et il y a aussi Christophe qui est à côté de moi.
Bonjour Christophe.
Salut.
Alors, au départ, on est un collectif, donc tout le collectif Table. Et ce collectif s'est créé en fait à l'issue d'ateliers à l'école d'archi. Donc, nous, on est étudiants en architecture et donc on a décidé de créer Rue Balizarte. Alors, pour résumer, comme vous l'avez dit, c'est une création. En fait, ce n'est pas une création de liens, c'est les liens existent déjà et il y en a d'autres qui se créent, qui émanent justement de cette installation. Mais à l'origine, c'est plutôt visualiser ces liens qui existent au Grand Parc.
Matérialiser ces liens.
Matérialiser. Les rendre palpables presque, parce que voilà. Et on aurait voulu faire sur tout le Grand Parc, bien sûr, c'est-à-dire tendre des fils entre tous les appartements des gens qui se connaissent.
Oui, c'est ça, concrètement,
ici.
Il s'agit d'utiliser un ruban de plastique, un
exactement,
fil.
Exactement, un fil, oui.
Et de le tendre entre les appartements des gens qui se connaissent.
Qui se connaissent, c'est exactement ça, c'est tout simple, en fait. C'est les liens qui existent entre nous tous, qui sont invisibles. Nous, on s'est dit avec Christophe, on a envie juste de les voir, voilà.
Alors c'est tout simple, ça a l'air tout simple, mais ça l'a peut-être pas forcément toujours été.
Non, parce que dans un premier temps, en fait, il fallait surtout réussir à rentrer dans le Grand Parc, c'est-à-dire à ce que les gens nous fassent confiance, qu'ils comprennent le projet. Donc ça a été en fait plusieurs étapes à passer, notamment, on voudrait remercier le centre social parce que sans eux, je pense qu'on n'aurait rien fait. Ensuite, il y a d'autres gens qu'on voudrait remercier, des habitants du Grand Parc, des commerçants du Grand Parc, le prêtre du Grand Parc. Francis. Et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et surtout, il y a eu une décision qu'on a prise il y a 3 semaines, c'est de commencer à mettre les fils, c'est-à-dire les contacts qu'on avait déjà, commencer l'installation pour essayer de créer, commencer l'installation, qu'elle soit visuelle, pour que les gens s'intéressent et comprennent ce qu'on voulait faire. Parce que, en fait, quand on en parle comme ça, finalement, c'est pas très compréhensible.
Combien d'habitants ont joué ce jeu ?
Alors, après, il y a des habitants qui ont joué le jeu, mais qui n'habitent pas dans les 3 immeubles qu'on a traités. Parce que, bien entendu, on aurait aimé, comme je disais tout à l'heure, le faire sur tout le Grand Parc. On n'a pas pu. Donc, pour des raisons techniques, on a fait sur les immeubles C, D, E. Donc, je dirais qu'on est autour d'une quarantaine, cinquantaine d'habitants, vraiment, dans les appartements. Enfin, une quarantaine d'appartements. Après, c'est de l'ordre de familles. Il y a des gens, il y a des familles, il y a des gens seuls.
Et est-ce que cette installation a déclenché, en dehors du fait de tirer des fils entre les balcons, des moments de rencontre, des moments de convivialité ?
Plus que ce à quoi on s'attendait. Enfin, on s'attendait pas à quelque chose de spécial, mais oui. Enfin, dans ce projet-là, c'est quelque chose auquel on n'avait pas vraiment pensé. Il y a tout un côté extrêmement émotionnel, c'est-à-dire que les rencontres qu'on a pu faire, positives ou négatives, négatives dans le sens où parfois on ne s'est pas bien fait recevoir, parce qu'il y a des gens qui n'y comprennent pas. Après, il suffit juste de leur expliquer, et là, ils comprennent. Et à la limite, soit ils veulent participer, soit pas, mais pas de manière violente, c'est juste qu'ils refusent. Donc oui, ça a donné lieu à des rencontres, et souvent très forte, en fait, parce que justement, du fait que ce soit très court, sur un temps très court, et qu'il faut expliquer le projet à chaque fois, et qu'on vient chez les gens, mais c'est très gênant aussi d'un côté, parce qu'on vient chez les gens que pour peut-être 10 minutes, on ne sait pas comment leur dire qu'on aimerait faire plus, mais enfin, oui, donc ça a donné lieu à des choses, ouais, très fortes.
On arrive à la fin d'Evento. Qu'est-ce qui va advenir de cette installation ? On coupe les fils ?
Alors ça, on se pose beaucoup de questions là-dessus, c'est-à-dire, on va couper les fils, parce que comme je vous disais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces fils, enfin, visuellement, pour eux, ça ne marche pas. Après, la plupart sont super contents, la plupart ne veulent pas qu'on coupe les fils, voudraient que ça continue, la plupart voudraient encore des fils, mais en fait, on se pose 2 questions, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces fils qui vont tomber ? matériellement, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire pour prolonger en fait l'histoire de ces rencontres et pour garder une trace en fait, une trace donc écrite, visuelle de tout ce qu'on a pu vivre avec eux, et puis aussi les remercier qu'ils aient un souvenir de tout ça. Voilà, que ça ne s'arrête pas là, quoi, que ça soit un peu gravé. Parce que les fils, oui, vont disparaître. Mais les liens ne disparaissent pas, mais les fils disparaissent.
Christophe ?
Voilà, un problème. Salut. Le 16, on va couper les fils, on espère, et avec tous les participants. Donc c'est toujours un travail participatif avec tous les participants et tous les habitants. C'est ça le truc important, parce que ce n'est pas nous les mettre en œuvre, ce sont les habitants. Et donc on va couper les fils, il va pleuvoir des cordes.
Pleuvoir,
d'accord. Désolé, je ne suis pas français. Et voilà, finalement, chacun a son propre souvenir sur son balcon. Donc, il y a un post-evento qui va rester.
Merci Bertie, merci Christophe. Un autre projet, lui aussi mené par des étudiants à l'École des Beaux-Arts et en architecture. C'est un projet sous l'intitulé générique Station des Tours. Anne-Cé, bonjour.
Bonjour.
Alors, Station des Tours, en fait, c'est un triple projet. C'est à la fois Converse Station, c'est aussi Invistation et c'est aussi Désorientation.
Exactement.
Alors peut-être on va commencer par Conversation. C'est un dispositif qui est juste à côté de nous.
Voilà, en plus il est juste à portée de vue parce qu'il est à l'autre bout de la place là. Nous en fait on est parti, on a rejoint, enfin c'est un collectif comme on disait tout à l'heure, qui est parti d'un grand projet d'investigation des étudiants d'architecture sur le Grand Parc, savoir comment les gens y vivaient ensemble. Moi, je viens des Beaux-Arts, donc on est quelques étudiants à avoir rejoint ce collectif pour continuer à développer des projets, dont la Station des Tours, qui était premier lieu l'idée d'une station de tourisme dans le Grand Parc pour faire découvrir, redécouvrir ce lieu aux habitants et aux gens qui ne connaissaient pas du tout et qui n'en avaient que des clichés. Donc nous, on a proposé donc, les trois projets que vous venez de citer. Conversation, qui est un salon, un appartement, carrément un intérieur qu'on a mis dehors. Donc là, sur l'esplanade, il y a des meubles, il y a des frigos, il y a un canapé, il y a une table à manger. Voilà. On a sorti l'intérieur à l'extérieur pour que les gens viennent nous rencontrer comme si on les invitait chez nous. Parce que, comme Bertie l'a dit, aller chez les gens, frapper aux portes, ça ne se fait pas forcément de manière naturelle. Donc là, vu que c'est dehors, c'est ouvert, les gens y passent, ils viennent chez nous. Voilà. Et ça répond à un deuxième projet. Parce que ça, c'est qu'une partie du projet. Et le deuxième projet, c'est à l'inverse, dans l'appartement qui nous a été prêté par Aquitanis pour être le local du collectif, on a fait un extérieur. C'est-à-dire que c'est une palombière, il y a une forêt de bambou, une forêt de laurier, des tentes. C'est des tentes d'hôtes, des tables d'hôtes, mais dans une forêt intérieure. Voilà.
Vous jouez donc du dedans-dehors, tout ça est très désorientant et désorientation.
Désorientation, c'est un projet de dérive, justement, amener les gens au Grand Parc. De manière un peu originale et thématique. Donc, leur proposer des parcours et leur proposer de se perdre pour venir au Grand Parc, pour en avoir une autre vision aussi. Voilà.
Alors, tu évoquais à l'instant Invistation, cette transformation d'un appartement en un espace extérieur, un appartement, oui, dans lequel, malgré tout, vous accueillez des habitants de cette cité. Mireille, bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous venez de passer un instant dans cette palombière.
Oui, j'ai Alors, passé la nuit.
Racontez un petit peu cette expérience.
Eh bien, on est arrivé, on se serait cru dans un grand parc avec des feuilles partout. Et en plus, des gens qui nous ont très bien accueillis. Et on a passé la nuit là. On a mangé d'abord sur une table qui a été faite par leur souhait à eux. Et voilà, nous avons mangé et puis nous sommes allés nous coucher sous la tente.
On a vu tout à l'heure que le projet de Bertie et Christophe, rue Balizarte, avait été parfois reçu très positivement par certains habitants, peut-être un peu plus fraîchement par d'autres. Comment est-ce que les habitants de la cité Le Grand Parc ont perçu ce projet Station des Tours ? Ils sont venus souvent participer à ces conversations. De nombreux habitants sont venus résider quelques instants dans l'appartement.
Non, on a eu pas mal de visites parce que donc on fait visiter cet appartement tout au long de la journée là depuis 4 jours pour venir y passer un moment, un apéritif dînatoire ou une nuit aussi de camping au 10e étage du Grand Parc. Il faut réserver, il faut prévoir un peu à l'avance. Donc voilà. Donc c'était la deuxième nuit où on proposait de prêter notre lieu et prêter nos tentes. Et ben, ça s'est très bien passé. Et sinon, nous, c'est toujours un plaisir d'accueillir les gens, leur montrer. On a des retours très positifs. Les gens sont assez bluffés et assez contents de se retrouver au 10e étage sous une forêt de lauriers. Et la vue est, qui est magnifique aussi. Donc avec des jumelles, on peut admirer comme Dieu d'une vraie palombière, en fait.
Alors au cours sans doute de ces conversations dedans-dehors sont apparues des légendes du quotidien. Maïlys, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors quelques mots peut-être pour introduire ce que vous allez nous donner à entendre dans quelques secondes.
Alors en fait, les légendes du quotidien, ça naît de l'atelier qu'on a fait avec l'école. Donc à travers de la première exploration du site, c'était donc ces grandes façades, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter ? Parce que ces façades sont souvent dépréciées en fait dans le paysage urbain. Donc c'était l'idée de pouvoir révéler leur poésie et d'imaginer qui vivait dedans et comment étaient les appartements. Donc on a filmé à plusieurs nuits depuis notre appartement du collectif, ces façades avec les lumières. Et à partir de là, faire des statistiques, des interprétations pour les donner en fin de compte aux habitants et aux gens de l'extérieur au travers d'un blog pour qu'ils imaginent des légendes du quotidien.
Et là on va écouter
Une légende du quotidien écrite par une prof de collège.
Élue par Julie Demuer.
Alors, ça s'intitule « Une lumière très forte au 14e étage constitue un repère dans la façade. Quand l'ascenseur est en panne, le père Sarouf est le seul à ne pas trop rouspéter. Il lève la tête vers l'immensité verticale de la cage d'escalier, esquisse un sourire et visse sa casquette sur son crâne de septuagénaire. Le pied sur la première marche et déjà la tête dans les étoiles. Essoufflé, il l'est forcément lorsqu'il commence à siroter son café chicoré en scrutant l'horizon. Un océan de bâtisses en pierre de taille blanche, le Bordeaux des Chartrons. Une armada de bâtiments plus impressionnants que les uns que les autres. Il aime bien cette vue à 180 degrés où son regard peut s'accrocher au vol des mouettes qui s'aventurent jusque-là. Il a eu beaucoup de chance. On lui a tout de suite proposé un F2 au 14e étage de cette barre du Grand Parc. Tenir la barre au port de la Lune, la bonne aubaine. Depuis 10 ans, consciencieusement, dès que le soleil décline, il se dirige vers le globe de son paradis. Il allume l'ampoule de 200 watts qu'il a installée dans sa salle à manger, devant la fenêtre, et il éclaire l'horizon. Il est certain que les bâtiments sur la Garonne se fient à son rayonnement. Le père Sarouf ne s'ennuie jamais durant ses longues nuits d'insomnie. Il veille sur le fleuve. Avant, il était gardien de phare à Ouessant. Et donc, ça a été écrit par une demoiselle qui s'appelle Caroline Sauvage.
Une légende du quotidien pour ce dernier éventail d'évento sur les ondes de Radio Grenouille et de Radio Campus Bordeaux. On les a entendus tout à l'heure en double solo. On les retrouve maintenant en duo, Gourmit et Pritam. Gourmit au Dol, Pritam au Sarod. Thank you very much to both of you. On retrouvera dans un instant un quatrième moment sonore en compagnie de Derek Johnson de Bang on a Can. Mais pour l'heure, peut-être quelques mots de la part de Barbara. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Tu es la référente d'Evento sur cette cité des grands parcs. Et je crois que tu avais envie de conclure ce moment par un texte, une sorte d'hommage.
C'est ça, exactement. Alors je me lance, c'est parti.
On t'écoute.
J'ai quelques minutes, 3, 2. Depuis 4 jours au Grand Parc, et plus particulièrement ici, à Central Park, nous vivons un microclimat. Et je crois que Central Park pourrait largement faire concurrence à la côte vendéenne qui bénéficie, elle, de 2200 heures de soleil par an. J'entends encore Guy Lenoir s'écrier « C'est un signe !» Et je me souviens de son histoire de chaussures coincée dans un trou devant la salle des fêtes le 28 septembre dernier. C'était un signe, le jour de la restitution des cartes postales sur le devenir de cette SDF. Il faisait un soleil de plomb ce jour-là aussi. C'est avec cette qualité microclimatique que le Grand Parc accueille Evento, avec un soleil et des sourires radieux, avec motivation, finesse et savoir d'usage. Alors raison de plus pour pousser l'audace, le coup de pédale, le rail de tram jusqu'ici, parce que non, ce n'est pas loin le Grand Parc. J'ai passé ces 4 derniers jours ici, entre Mozart et Offenbach, à observer le Kidam, à écouter les cours de philo de Claudia, à être bercée par les élèves du collège Clisten qui nous dévoilaient leurs légendes du quotidien, à penser à la caméra de Jérôme qui nous filme 24-24 depuis jeudi matin, à boire un café dans le salon extérieur pensé par les étudiants, ces étudiants de l'école d'archi et de l'école des beaux-arts, qui sont pour la plupart installés dans le quartier depuis plus de 6 mois et qui ont su avec fraîcheur et utopie investir les espaces en toute spontanéité, en toute simplicité, qui ont su créer du lien et expérimenter la participation. Et je crois qu'ils ont réussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le temps de goûter, de sonder, de vivre le quartier et j'espère qu'ils auront aussi suscité l'envie. Venez les artistes, posez vos valises ! Dans ce quartier se cachent des pépites qui pourront nourrir votre travail et votre imagination pour des siècles et des siècles. Et le Kidam, toujours lui, qui passe, regarde, s'intrigue, s'approche chaque jour un peu plus et finira par vaincre son autocensure pour se retrouver avec nous aujourd'hui. Si je le vois, je vous le présente. 3 minutes, ça suffit pas pour dire à quel point j'aime ce quartier, pour mettre en avant toutes les belles personnes qu'on peut y croiser. Et en plus, il paraît qu'on peut trouver des louis d'or au pied des Ginkgo Biloba. Affaire à suivre au Grand Parc.
Merci Barbara pour ce beau texte. Luigi Coppola, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu fais partie de la direction artistique d'Evento. Evento qui arrive là l'extrémité de sa programmation, notamment ici au Grand Parc. Peut-être il est trop tôt sans doute pour faire un bilan, il y a encore une belle soirée à venir, mais ton sentiment sur ce qui s'est déroulé ici, peut-être en complément de ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est vraiment difficile de tirer des conclusions parce qu'on a travaillé sur un projet sans conclusion. On a cherché de voir Evento, les 10 jours, c'est-à-dire Evento, comme un moment de passage, un moment de fête qu'on a construit pour un an très intensif qu'on a vécu ici, avec plein de luttes, de désirs, d'espoir, de faire bouger la ville et de comprendre comme l'art pouvait créer des liens et des lieux. Lié des imaginations, des prospections, des idées qui soufflent un vent nouvel sur cette ville, qui est conservatrice, mais quand tu pénètres le cœur, est très généreuse. Et alors, ce n'est pas une conclusion pour moi aujourd'hui, mais c'est un moment de passage, comme dans tous les rituels qu'ils ont en fonction sociale. C'est un passage parce qu'on a construit beaucoup de projets qui vont continuer dans l'esprit, mais dans la forme aussi. Et on espère qu'on a construit aussi un désir de réimaginer la ville. Et il y aura l'exposition Racine qui va perdurer pour 4 mois encore. Mais il y aura beaucoup de projets qui sont seulement en phase de préfiguration avec Vento et qui vont, je pense, nourrir beaucoup la ville. Ici, on est à Central Park, on l'appelait comme ça pour l'occasion, comme a dit très bien Barbara. Et c'est seulement vraiment, et c'est symbolique d'être ici aujourd'hui parce que c'est un projet qui... Pour nous, c'était vraiment à cœur. On l'a vraiment vécu comme une expérimentation intéressante où vraiment les milieux associatifs et citoyens s'est retrouvé pour réimaginer avec un besoin réel. On n'a travaillé pas sur des choses qui ont amené de l'extérieur, mais c'était, on a travaillé sur des besoins, sur des désirs. Et ce désir ne peut pas être fermé, arrêté. C'est un désir qui va avancer et j'espère que cette ville a toutes les potentialités vraiment pour se réinventer de manière intéressante.
Merci à toi Luigi Coppola et merci de nous avoir accueillis Radio Grenouille comme artiste oui. Invité de cet evento 2011.
Oui, je voudrais vous remercier particulièrement parce que votre regard sur cette manifestation qui a commencé très tôt, c'est pas seulement comme c'est aussi inscrit dans une durée avec les chantiers mobiles, avec tous les travaux d'exploration qu'on a fait. C'était vraiment précieux, votre regard intelligent et critique, parce qu'il y a vraiment besoin d'un critique pour se nourrir et pour se prospecter. Merci beaucoup, merci.
On va maintenant accueillir Derek Johnson, Derek Johnson de Bang on a Can All Stars. Alessandra, peut-être quelques mots, juste avant que Derek branche sa guitare pour présenter Bang on a Can All Stars et Derek Johnson.
Bang on a Can All Stars, c'est un sextet qui vient de New York. Ça fait partie d'un collectif. En fait, il est né depuis que 3 compositeurs, Michael Gordon, Julia Wolf et David Lang, ont commencé à travailler ensemble. Et à un moment donné, ils ont eu aussi besoin d'avoir un groupe qui pouvait vraiment franchir les frontières et accueillir un répertoire très, très vaste, un répertoire contemporain très vaste. Donc, à côté de leur propre travail comme compositeur, ils ont donné la naissance à le groupe Bang on a Can All Stars. Ils ont aussi fondé un label, Cantaloupe Music. Ils ont un programme d'été qui s'appelle Music Institute, Bang on a Can Music Institute. Et ils ont un projet, ils ont le Bang on a Can Commissioning People Fund pour donner la possibilité de faire de nouvelles commandes aux jeunes compositeurs.
Derek Johnson pour une improvisation. Derek Johnson à la guitare. Derek Johnson que vous pourrez retrouver aujourd'hui, dimanche à 18h avec les Bang on a Can All Stars à la Cité du Grand Parc. Voilà, le temps est venu pour nous de conclure cette aventure bordelaise entamée au mois d'août avec les stations du chantier mobile et poursuivie tout au long d'Evento avec ses plateaux radio réalisés par Tony Regnault. Merci à toute l'équipe de Grenouille, Julie, Nelly, Clément, Christophe, Floriane, Jérémy et à Thierry, désormais à demi-batracien. Merci à Marie et Bradley et à toute l'équipe du chantier mobile d'Evento qui ont sué sang et eau. Pour installer, pour désinstaller, pour encadrer ces stations et plateaux mobiles, merci à Barbara, Nadia, Stéphanie, Marlène, Mathilde, à Sofia et Mamaloupa. Merci à Charlie, Thibault et Eric. Toutes celles et ceux qui nous ont immensément facilité la tâche pour ce marathon radiophonique, 15 heures de programme bon poids à réécouter sur radiogrenouille.com. Merci à Éventaille de la biche et que ça zouille pour eux. Et merci à Radio Campus Bordeaux qui a ouvert son antenne à nos émissions. Merci à tous les artistes qui y ont participé. Et surtout merci à vous tous, de les avoir suivis et de les avoir écoutés. Voilà. Basta così. On se quitte avec Mardeux. Une création sonore de Christophe Modica.
Chère révolution urbaine, chère révolution urbaine, chère révolution urbaine, chère révolution urbaine. Aujourd'hui, j'en avais marre des villes, marre des voitures, marre des bâtiments, marre des urbanistes, marre des architectes, marre des planificateurs, marre des concertateurs, marre des quartiers, marre des pauvres, marre des riches, marre du bruit, marre de la foule, marre des hypersens, marre des périphéries, marre des mots, marre des images, marre de la radio, marre du monde, marre de voir tout le temps du monde, marre des tramways, marre de rater mon tramway, marre de me galérer à 3h du matin parce que j'ai raté mon tramway, marre des murs, marre des portes, marre des fenêtres, marre des fenêtres, marre des murs, 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 marre des chiens, 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 marre de la radio.
Alors je suis parti et c'est plutôt très chouette, le soleil se couche, c'est tout apaisé et on est pas mal là, au bord de la plage. Mais je vous fais de grosses bises à tous. Thierry.
Besitos.
À bientôt.
Bisous.
Salut, bisous.